France Culture.
La science CQFD, Natacha Triou.
Il y a les effets spectaculaires de la crise environnementale, les méga-feux de Californie, la tragédie de Mayotte. Il y a des conséquences plus discrètes. Quels sont les impacts du changement climatique sur la microbiologie des eaux et des sols ? Champignons, bactéries, protozoaires, phytoplancton, virus, les micro-organismes représentent 90% des espèces du monde vivant. On sait qu'ils ont joué un rôle primordial dans les climats passés et qu'ils ont régulé la chimie atmosphérique de notre planète. Le changement climatique va avoir et a déjà des effets très concrets sur les océans, les sols et l'ensemble des communautés microbiennes qu'ils hébergent, avec des conséquences qui ne seront pas seulement environnementales, mais aussi sanitaires, comme l'émergence de micro-organismes pathogènes. Réchauffement climatique, gare aux microbes. Alice Le Breton, bonjour.
Bonjour Natacha.
Vous êtes directrice de recherche en microbiologie cellulaire à l'INRAE, mise à disposition comme professeure au département de biologie de l'École normale supérieure. Fabien Joux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de microbiologie à Sorbonne Université, directeur adjoint du laboratoire d'océanographie microbienne à l'Observatoire océanologique de Banyuls. Et en duplex de Dijon, Laurent Philippot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'INRAE, directeur adjoint de l'UMR Agroécologie. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation en direct sur France Culture. Et merci à vous qui nous écoutez en direct ou à toute heure en podcast sur l'appli Radio France. Alors le départ collectif de X, ex-Twitter, se poursuit d'ici le 20 janvier. Donc nous avons migré sur Blue Sky et nous vous invitons à nous y rejoindre. C'est sur notre compte @sciencecqfd. Et tous les jours, nous publions pour vous toutes les sources qui ont nourri cette émission. Alors comment les micro-organismes ont-ils façonné et comment façonnent-ils encore le climat ? Quels sont les effets des changements climatiques ? Et dans ce contexte, quelle est l'évolution des menaces sanitaires ? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais d'abord, quelle relation entre la santé des sols et la microbiologie ? La question est posée en 1952, c'est notre archive du jour.
Nous avons vu, dans les précédentes causeries, le jeu naturel, normal, des germes du sol. Et nous avons montré le caractère rigoureusement indispensable de leur action pour le maintien de la vie. On s'est depuis longtemps demandé s'il y avait un rapport entre la fertilité d'un sol et les microbes qu'il contient. Le seul fait que ces microbes soient beaucoup plus nombreux dans les sols cultivés que dans les autres permet de répondre par l'affirmative à cette question. Mais il est encore difficile de donner des précisions. En effet, les plantes réagissent à leur tour par leur sécrétion radicellaire sur les microbes et il se forme une sorte d'équilibre, d'interaction dont l'analyse est loin d'être terminée. On peut dire cependant qu'en pratique, l'analyse bactériologique d'un sol donne des renseignements précieux sur son état, sa vitalité, son âge. Cette analyse bactériologique mérite de prendre place à côté d'une analyse chimique, teneur en phosphore, potassium, calcium, etc., couramment pratiquée actuellement. Mais à condition que l'analyse bactériologique soit faite correctement, c'est-à-dire qu'elle cherche surtout à mettre en évidence les grands groupes microbiens responsables de la fixation de l'azote, de l'ammonification, de la nitrification et de la fermentation de la cellulose.
Voilà un extrait de l'heure de Culture française diffusée sur la RDF en 1952. Pour compléter cette causerie, Alice Le Breton, quel rapport entre fertilité d'un sol et microbiologie ?
Ça commence à être évoqué un petit peu dans cette archive qui était intéressante, puisque c'est vrai qu'il essaye tout de suite, il met le doigt sur le fait que la fertilité du sol, elle est liée au métabolisme des microbes qu'il y a dedans. Et en tout particulier, est-ce que ces microbes, ils vont être capables de faire des produits azotés ? Les produits azotés étant parmi les grands fertilisants que nous, on va vouloir amener avec des amendements lorsqu'on va vouloir mettre des engrais pour que les plantes poussent. Donc je pense que c'est un des sujets qui était intéressant dans cette archive. J'étais assez interpellée par le fait qu'il parle du nombre de microbes dans les sols et qu'il lie ce nombre de microbes à... Que les nombres de microbes pour lui sont plus importants dans les sols cultivés que dans les autres. Je suis pas sûre que cette vérité-là tiendrait encore beaucoup aujourd'hui.
Laurent Philippot, votre réaction, vous aussi, à l'écoute de cette archive.
Le message général, effectivement, est intéressant et c'est un message qu'on essaie toujours de faire passer aujourd'hui, l'importance des microbes pour les sols. Je suis complètement d'accord. C'est très discuté aujourd'hui, c'est plutôt le contraire. Les sols cultivés sont moins divers en ce qui concerne les communautés microbiennes.
Et vous, Fabien Joux, alors vous, votre dada, c'est plus la microbiologie aquatique, mais, oui. mais comment avez-vous aussi écouté cet extrait de 1952?
On pourrait extrapoler un petit peu le discours également aux océans. On sait que ces microbes jouent un rôle majeur en fait dans les cycles des éléments, et c'est aussi vrai dans les sols que dans les océans. Et puis on peut également dire que ce sont également des consommateurs, des producteurs en fait de gaz à effet de serre dont on va reparler. Donc ils jouent un rôle important dans le climat. Et puis aussi dans cette archive, en fait, il est question en fait des interactions entre les micro-organismes en fait et d'autres organismes. Et donc ça c'est vrai également au niveau des végétaux, des animaux et des hommes. Et donc tous les dérèglements en fait de ces interactions peuvent avoir des conséquences à la fois écologiques, sanitaires et économiques.
Avant de parler de ces interactions, peut-être Alice Le Breton, on peut faire un rappel rapide sur ce qu'englobe la microbiologie. Qu'entend-on par micro-organisme ?
Les micro-organismes, historiquement, c'est tout ce qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, donc pour lequel il faut au moins un microscope pour les voir, jusqu'à un microscope électronique pour les virus, pour les plus petits, qu'on peut même pas voir dans un microscope optique. Et puis, en allant jusqu'aux organismes en dessous du millimètre, en tout cas, mais ça peut éventuellement même englober des protozoaires, voire des petits animaux avec quelques cellules. Ceci dit, normalement, on s'arrête plutôt aux organismes qui sont composés d'une seule cellule pour les micro-organismes.
Laurent Philippot, côté justement biodiversité des sols, c'est surtout les bactéries et les champignons qui constituent l'immense majorité de la biodiversité des sous-sols.
Tout à fait. On parle de plusieurs millions d'espèces par gramme de sol, plusieurs milliards d'individus pour les bactéries. Un gramme de sol, ça ne représente même pas la dernière phalange d'un de vos doigts.
Et Fabien Joux, côté justement biodiversité de ces micro-organismes aquatiques.
Alors, je dirais que la particularité peut-être des milieux aquatiques par rapport au sol, c'est l'importance en fait du phytoplancton dans la production primaire, la fixation en fait du carbone par photosynthèse. Donc ça représente en fait 50% de la production primaire globale sur Terre, ce phytoplancton. Même si leur biomasse est nettement inférieure aux végétaux terrestres, ils joueront un rôle essentiel en fait dans le cycle du carbone.
Sur le rôle des phytoplanctons, peut-être qu'on peut justement un peu plus rentrer dans le détail sur micro-organismes et climat. On sait que les micro-organismes jouent un rôle très important dans les cycles biochimiques qui déterminent les climats. Alice Le Breton, quelles sont justement ces interactions entre climat et communauté microbienne ?
Alors, les interactions entre climat et communauté microbienne vont être dans deux sens, mais dans le sens, en tout cas, de l'impact des tout petits micro-organismes sur le climat, ça va être essentiellement par leur rôle majeur de producteurs de gaz à effet de serre ou de consommateurs de gaz à effet de serre. Et bien qu'ils soient tout petits, ils sont très nombreux et ils ont un métabolisme très très actif. Et donc, ils vont être capables tous ensemble de produire ou de consommer d'énormes quantités de gaz à effet de serre, ce qui fait que à l'échelle géologique ou bien même à l'échelle humaine, on peut avoir des effets majeurs dans la composition de l'atmosphère uniquement du métabolisme des micro-organismes s'ils sont suffisamment nombreux. Les principaux gaz qui vont être concernés, ça va être le dioxyde de carbone, le principal gaz à effet de serre qui nous inquiète actuellement, mais un deuxième gaz à effet de serre aussi très important qui est le méthane, et le troisième c'est le protoxyde d'azote ou gaz hilarant.
Méthane qui est en effet un effet de serre très puissant mais qui a une durée de vie moins long que le CO2, Alice Le Breton.
Tout à fait. Alors, il est beaucoup plus puissant que le dioxyde de carbone, mais il ne reste dans l'atmosphère que de l'ordre de 12 ans avant d'être soit évacué vers d'autres... l'espace, soit retransformé en dioxyde de carbone souvent. Et donc là, il perd de son potentiel calorifique par rapport à d'autres gaz à effet de serre.
Laurent Philippot, justement, comment les micro-organismes des sols façonnent-ils le climat ?
Outre le carbone, qui a été discuté précédemment, l'autre gaz à effet de serre cité, c'est le N2O. Et si on reprend l'archive, le N2O, c'est un produit de respiration des microbes du sol. Nous, les organismes soi-disant supérieurs, quand il n'y a plus d'oxygène, on meurt. Certaines bactéries du sol sont capables de respirer le nitrate, des formes oxydées de l'azote, et de le transformer en N2O ou en diazote, qui constitue 70% de notre air. Et ce N2O est un gaz à effet de serre extrêmement puissant, puisque son pouvoir de réchauffement global est à peu près 300 fois supérieur à celui du CO2, parce que sa durée de vie est de 100 ans. Et ce N2O, si on prend l'aspect fertilisant, il y en a beaucoup plus qui sont émis maintenant à cause de l'apport d'engrais azotés. L'apport d'engrais azotés, maintenant on peut estimer à peu près que 4 millions de tonnes de N2O sont émis par ces processus microbiens dans les sols, ce qui représente à peu près 10 à 12% des émissions de gaz à effet de serre global, et 80% des émissions de N2O proviennent de l'agriculture.
En effet, on reparlera des parts des émissions de gaz à effet de serre qui sont dues aux micro-organismes. Le cycle de l'azote, comme vous dites, c'est un des éléments essentiels à la croissance des plantes. Alice Le Breton, côté justement carbone, un des rôles essentiels joués par les micro-organismes du sol, c'est bien ce rôle de séquestration de carbone.
Oui, tout à fait. Rôle de la séquestration ou le rôle de la déséquestration du carbone, puisqu'on va avoir un grand nombre des micro-organismes du sol qui vont être impliqués dans la dégradation de la matière organique qui va pouvoir être produite par exemple par les plantes. Lorsqu'elles vont se retrouver dans le sol, elles vont être décomposées par des micro-organismes. Donc là, il y a deux possibilités. Soit c'est complètement dégradé et on va entre autres avoir la respiration qui va produire d'un côté de l'eau, de l'autre côté du dioxyde de carbone. Soit on va peut-être avoir une séquestration de la matière organique si elle est incomplètement décomposée et donc potentiellement sur des temps longs, des productions de matière qui vont rester enfouies dans les sols.
Fabien Joux, on sait donc le plancton joue un rôle crucial aussi dans le système climatique. Ça, c'est quelque chose qui a été découvert assez récemment.
Oui, du moins la production primaire du phytoplancton est connue depuis longtemps, mais on a pu mettre des chiffres un petit peu à cette activité. Donc on sait en fait qu'on a multiplié les concentrations de CO2 dans l'atmosphère de manière très importante. On relargue en fait 10 gigatonnes de carbone par an, c'est donc 10 puissance 15 grammes de carbone, dans un stock de carbone atmosphérique qui est de l'ordre de 750 gigatonnes. Et donc ces concentrations en fait sont sans précédent historique. Et donc c'est là en fait que cet excès en fait de CO2 va être capté pour une partie en fait par les écosystèmes terrestres, environ 31% de cette contribution. Et pour le restant, 25%, ce sont les océans. Et ces deux processus, en fait, qui s'additionnent, il y a tout d'abord la dissolution du CO2 dans ces eaux marines, et le captage, en fait, de ce CO2 par le phytoplancton, par la production primaire, en fait, exercée par ces micro-algues, qui transforment ce CO2 en matière organique, qui ensuite va pouvoir sédimenter dans la colonne d'eau. Et donc, c'est ce qu'on appelle la pompe biologique, qui contribue, en fait, à la séquestration de carbone, comme la dissolution en fait du CO2 dans l'eau qui va être acheminée en fait par la circulation thermohaline.
Et ce mécanisme de pompe à carbone océanique a une forte influence sur le climat et a joué aussi une forte influence sur les climats passés, Alice Le Breton. Si on revient en arrière sur l'histoire géologique...
C'est pas seulement la pompe carbone océanique qui a joué une grande influence sur les climats passés, c'est l'ensemble de l'évolution et de la coévolution du vivant et de la planète. Et donc si on se repart aux origines de la vie, les premiers micro-organismes qui vont apparaître sur Terre, par leur propre métabolisme, vont commencer à intervenir sur leur environnement, et en rétroaction, leur environnement va intervenir sur eux. Donc sur des milliards d'années, la composition de l'atmosphère terrestre a changé parce qu'on avait initialement une atmosphère qui était très riche en méthane. Ce méthane, a été consommé en partie par les micro-organismes, aussi une partie s'est dégazée vers l'espace, pour alimenter le métabolisme des micro-organismes, qui était plutôt méthanotrophes à l'époque, c'est-à-dire qu'elles mangeaient du méthane. Et puis, peu à peu, certains micro-organismes se sont mis à faire un déchet très important pour nous, qui s'appelle l'oxygène. Et cet oxygène, peu à peu, s'est accumulé dans l'atmosphère, a créé une crise massive de la biodiversité en tuant toutes les espèces qui n'étaient pas capables de survivre à cet oxygène, en faisant disparaître un certain nombre, et a poussé l'évolution vers le fait que des nouveaux micro-organismes apparaissent et soient capables de consommer cet oxygène, cette fois-ci pour leur métabolisme à eux.
Ça, c'est cet épisode, c'est l'épisode nommé la grande oxygénation.
C'est ça, c'est la grande oxygénation qui va être tout de suite suivie après par quelque chose qui va s'appeler la très grande glaciation. Parce qu'on a fait disparaître tous les gaz à effet de serre et tout d'un coup, il fait très froid.
Et la Terre qui est dite boule de neige. Alors comment évolueront ces émissions avec les changements climatiques à venir? Quelles seront les rétroactions? Restez à l'écoute.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture, avec Alice Le Breton, Fabien Joux et Laurent Philippot, nous parlons de la microbiologie du réchauffement climatique. 2024 est l'année la plus chaude jamais enregistrée depuis 1850. La température moyenne mondiale a dépassé la limite de plus 1,5 degré sur une année. La température moyenne des océans a atteint de nouveaux records et les concentrations atmosphériques de CO2 ont continué à augmenter. Alice Le Breton, quelles vont être les conséquences microbiologiques de ces changements ?
Elles vont être très diverses selon les microbes. Donc si on regarde un microbe à un, les différences vont être sur la fonction d'un microbe elle-même, en fonction de la température. Il peut se mettre à pousser plus vite, à pousser moins vite, à avoir des changements de son métabolisme aussi. Certains microbes vont se mettre à respirer beaucoup plus, par exemple, donc potentiellement à produire plus de dioxyde de carbone. Et puis après, on a des changements qui ne vont plus être à l'échelle du microbe, mais à l'échelle de l'écosystème. C'est-à-dire que les microbes, on en a parlé tout à l'heure, ils ne sont pas tout seuls, ils vivent entre eux, ils échangent des métabolites, et donc si on a un déséquilibre thermique, on va avoir certaines espèces qui peuvent prendre le dessus par rapport aux autres, et donc ne plus fournir certains métabolismes à un autre qui va être impacté en conséquence, etc. Et donc on va avoir un changement total de l'écosystème qui va être différent en fonction d'un milieu ou d'un autre.
Côté sol, toujours, Laurent Philippot, ce sont les premiers centimètres du sol où vivent les micro-organismes qui souffriront le plus ?
C'est un peu plus compliqué que ça. Déjà, je veux dire que si le changement climatique est traduit comme un stress pour les microbes, il y a une autre forme de réponse qui est de passer sous forme dormante, sous forme de spore. Et ça, on peut y revenir en discuter plus tard lorsqu'on parlera des maladies. Concernant les premiers centimètres de sol et le réchauffement climatique, je parlerai plutôt de l'Arctique. L'Arctique est une des régions les plus sensibles au changement climatique parce que l'élévation de température moyenne en Arctique, c'est 2 à 4 fois celle de la moyenne du globe. Et l'Arctique, c'est très important parce qu'une élévation de température entraîne une fonte du permafrost qui est un réservoir très important de carbone avec plus de 1500 milliards de tonnes de carbone, donc le double du carbone atmosphérique. Donc le réchauffement du permafrost entraîne donc le dégel, les micro-organismes deviennent plus actifs et ce carbone qui est stocké sous forme de matière organique va être émis sous forme de gaz à effet de serre, sous forme de CO2. Donc on estime qu'une augmentation de température de 2 degrés peut entraîner jusqu'à à peu près un tiers, jusqu'à la moitié, un tiers de perte du permafrost, donc d'émissions de gaz à effet de serre par les microbes.
Fabien Joux, en effet, dans le milieu polaire ou arctique, la fonte des glaciers va aussi nécessairement provoquer des modifications des communautés bactériennes.
Oui, alors c'est assez complexe en fait. La réduction en fait de la banquise, dans un premier temps en fait, va favoriser en fait la production par le phytoplancton. Il y aura une couche de glace moins importante, la lumière va pénétrer plus facilement, et on voit le développement en fait de phytoplancton sous la surface en fait de cette banquise. Donc dans une certaine mesure, plutôt un effet bénéfique, hein, il y a une pompe en fait de carbone en fait facilitée, mais toute l'écologie en fait de l'écosystème va être modifiée en fait par cette fonte prématurée de la banquise. On peut également évoquer en fait dans ce processus en fait de fonte de la banquise l'intervention de microalgues qui peuvent se développer à surface de glace et qui, par leur pigmentation, en fait, vont diminuer en fait l'effet albédo, c'est-à-dire la réflexion en fait de la lumière par cette glace, et donc amplifier du même coup en fait la fonte en fait de ces glaciers.
Et alors justement, cette amplification de la fonte des glaciers, c'est encore une boucle de réaction, puisque si les glaciers disparaissent définitivement, on peut imaginer que l'apport régulier en fer peut être bouleversé.
Oui, alors ça, c'est une autre problématique également assez complexe. Ces glaciers, effectivement, peuvent apporter des éléments nutritifs et des éléments traces, comme le fer. Et notamment, ces apports sont importants dans certaines zones océaniques, limitées par ce fer. Donc c'est le cas, en fait, des terres australes françaises, l'océan austral, où un glacier, en fait, présent aux îles Kerguelen, en fait, apporte apporte en fait ce fer et permet une fertilisation, je dirais, naturelle du phytoplancton. Donc on prévoit en fait la disparition de ce glacier à l'échelle de quelques dizaines d'années, et donc ça sera une source de fertilisant de ces océans qui va se réduire et donc du même coup en fait atténuer cette pompe biologique de carbone effectuée par le phytoplancton.
Par rapport justement à la hausse des températures, le réchauffement de la couche océanique supérieure, qu'est-ce que cela va-t-il provoquer, Fabien Joux?
Alors ça, c'est un effet également qui est important. C'est plus au niveau des tropiques cette fois-ci. Donc on sait que les modèles climatiques prédisent un réchauffement des eaux d'environ de 1 à 3 degrés en fonction des scénarios. Donc c'est une augmentation un peu moins inférieure à celle de l'atmosphère. Mais ce réchauffement va renforcer la stratification thermique dans la colonne d'eau. Donc c'est un phénomène naturel qui a lieu en été. Mais cette stratification thermique constitue une barrière physique aux échanges verticaux entre les eaux en profondeur qui sont riches en éléments nutritifs comme l'azote, le phosphore, le silicium ou des éléments traces, et les eaux de surface éclairées où les microalgues effectuent la photosynthèse et la production primaire. Et donc ce renforcement de stratification verticale dans la durée et dans le volume d'eau affectée va induire en fait une plus faible production primaire par le phytoplancton en surface, et donc un captage de CO2 qui va être moindre. C'est ce qu'on appelle en fait l'effet d'oligotrophisation des eaux, que l'on constate en fait principalement dans les zones tropicales. Et donc c'est encore une fois en fait une amplification possible en fait du changement climatique lié à cette réduction.
Autre conséquence, on évoque aussi une désertification du milieu aquatique.
Alors c'est un peu ce processus en fait d'oligotrophisation auquel en fait les micro-organismes se sont adaptés. Donc on voit en fait dans ces environnements pauvres en éléments nutritifs la présence en fait de bactéries hétérotrophes et également de cyanobactéries qui ont évolué de différentes manières. Tout d'abord en ayant une très petite taille de l'ordre de 0,5 microns, ce qui leur permet en fait de maximiser le rapport entre la surface d'échange avec le milieu extérieur et leur biovolume. Donc ce rapport en fait peut être jusqu'à 8 fois inférieur à celui qui est observé en fait chez une bactérie entérique de type Escherichia coli. Une autre évolution évolutive en fait chez ces bactéries oligotrophes a consisté à réduire la taille de leur génome qui fait de l'ordre de 1 million de paires de bases. Et à titre de comparaison, encore une fois, avec Escherichia coli, qui possède en fait un génome de 5 millions de paires de bases. Et donc ce petit génome, en fait, code pour environ 1000 gènes seulement. Ça permet de réduire les coûts énergétiques liés à la réplication de cet ADN, mais il suppose en fait que la bactérie a choisi d'abandonner un grand nombre de gènes accessoires qui ne sont plus essentiels en fait dans la vie, dans ces environnements pauvres.
Ces environnements pauvres et puis ces environnements aussi de plus en plus acides. Il y a aussi cet autre phénomène néfaste qui est l'acidification des océans, Fabien Joux.
Oui, alors ça amène en fait à faire un petit peu de chimie en fait pour expliquer ce processus. Donc au moment en fait de l'entrée en fait de CO2 atmosphérique dans les océans, il va se transformer en acide carbonique qui va se dissocier rapidement pour former des ions hydrogène et des ions bicarbonate. Et donc c'est la production de ces ions hydrogènes qui va entraîner une augmentation de l'acidité des océans. Et donc cette acidité, elle se mesure en pH, en potentiel hydrogène, sur une échelle logarithmique qui va de 0 à 14, sachant que le pH neutre en fait est de 7. Donc actuellement en fait l'océan de surface est légèrement basique avec un pH de 8,1 en moyenne. Et l'eau de mer a perdu depuis la révolution industrielle 0,1 unité pH. Alors ça semble peu, mais ça représente une augmentation de l'acidité de 30%. Et dans les scénarios climatiques les plus pessimistes, avec une augmentation de la température de 4 degrés de l'atmosphère, on pourrait arriver à un pH de 7,7 à la fin du siècle. Et donc ce pH en fait, des océans ne descendra jamais sous le seuil de la neutralité, donc il ne deviendra jamais acide, mais une diminution même légère en fait, du pH peut avoir des conséquences importantes sur les organismes marins et notamment calcifiants. Et parmi ces organismes calcifiants, on trouve des coccolithophores, qui sont des microalgues planctoniques, qui sont à la base des chaînes alimentaires. Et donc ces microalgues sont importantes car elles fixent une partie de carbone dans leurs écailles calcaires, qui peut ensuite être exportée vers les fonds des océans pour être stockés à long terme. Donc c'est une nouvelle fois une chance de moins pour de contrer en fait l'excès de CO2 anthropique.
Qu'on voit que tout ça, en effet, sera un rôle direct sur le rôle de pompe à carbone de nos océans. Alice Le Breton, il y a un consensus aussi pour dire que le changement climatique va engendrer une perte globale de la biodiversité microbienne des sols.
Je suis pas sûre d'être pertinente sur cette question-là. Est-ce que mon collègue des sols peut en parler?
Ou Laurent Philippot, d'ailleurs, sur cette question.
Oui, on n'a pas de réponse.
Pas de réponse, une petite interférence radiophonique également, parce que j'avais lu ça en préparant cette émission, que peut-être il y aurait justement une perte globale de biodiversité microbienne des sols, qui aurait aussi des conséquences sur la résilience des plantes.
Ah, la perte de biodiversité des sols risque d'avoir, elle, des grosses conséquences sur la résilience des plantes par rapport au climat, mais donc on mesure une perte de biodiversité des sols d'origine anthropique, mais elle est plutôt lue pour l'instant à l'action anthropique sur, via l'agriculture, via l'urbanisation, où on perd la biodiversité des sols. La biodiversité des sols, c'est entre 1000 et 5000 espèces de micro-organismes par gramme de sol, et elle baisse beaucoup, beaucoup, dans les sols cultivés en particulier. Si on perd trop cette biodiversité des sols, effectivement, on se retrouve à avoir un moins grand nombre d'espèces qui sont capables de pousser sur ces sols-là, et une moindre biodiversité d'espèces qui peut pousser sur ces sols-là, ça veut dire potentiellement une plus grande sensibilité au stress, donc aux extrêmes climatiques, que ce soit l'aridité d'un côté, que ce soit les excès d'eau de l'autre, ou les très hautes températures.
Laurent Philippot ?
Oui, donc le changement climatique sur les micro-organismes du sol, on n'a pas encore de réponse très claire. Ça fait l'objet de plusieurs projets européens à l'heure actuelle. Et ça dépend de ce qu'on appelle le changement climatique. Est-ce que c'est plus chaud, plus froid ? Est-ce que c'est plus de pluie, moins de pluie ? Donc, on n'a pas de réponse, on est en train d'étudier ça. On a des dispositifs dans l'environnement qui permettent de simuler des conditions extrêmes et on regarde actuellement ce qui va se passer.
Par rapport justement aux micro-organismes marins, on n'a pas aussi parlé, Alice Le Breton et Fabien Joux, du cas des coraux hein, qui vivent en symbiose avec des algues unicellulaires.
Oui, tout à fait. Donc les coraux sont des organismes multicellulaires, mais qui ont en particulier un métabolisme qui est enrichi par l'apport de matières organiques que peuvent leur être fournies par des organismes photosynthétiques, donc qui peuvent utiliser l'énergie solaire pour capter le CO2 et produire la matière organique. Avec l'augmentation de la température des eaux, mais aussi leur acidification, on a un déséquilibre qui se crée entre ces coraux et leur symbionte, où le symbionte devient un petit peu trop consommateurs de ressources du coraux et les coraux ont tendance à les éliminer. Ce qui fait qu'on a ce qu'on appelle le phénomène de blanchiment des coraux, où on a cette rupture de symbiose et qui conduit peu à peu à la perte des récifs coralliens parce qu'ils meurent après cette rupture de symbiose.
Fabien Joux ?
Oui, j'ai pas grand-chose à ajouter. Alors, on meurt pas nécessairement, je dirais. Il y a également un phénomène réversible, en fait. Les coraux peuvent retrouver, en fait, ces exoxanthelles qui leur permettent, en fait, par symbiose, effectivement, d'apporter les éléments nutritifs nécessaires à la vie, en fait, de ces coraux.
Alors, dans quelle mesure le réchauffement climatique favorise-t-il le développement de micro-organismes pathogènes ? Comment étudier ces modifications environnementales ? Restez avec nous.
1, 2, 3, 4. We'll be right back.
Nasser en direct sur France Culture, car nous parlons des effets microbiologiques du changement climatique. On en parle avec nos trois invités du jour. Alice Le Breton, directrice de recherche en microbiologie cellulaire à l'INRAE et professeure au département de biologie de l'ENS. Fabien Joux, professeur de microbiologie à Sorbonne Université, directeur adjoint du laboratoire d'océanographie microbienne à l'Observatoire océanologique de Banyuls. Et Laurent Philippot, chercheur à l'INRAE, directeur adjoint de l'UMR Agroécologie. On vient de voir comment les micro-organismes des sols et des océans sont un peu l'angle mort du réchauffement climatique. Alice Le Breton, comment étudie-t-on tout cela? C'est un pan de recherche assez récent.
C'est un pan de recherche qui s'est fédéré récemment, mais on ne peut pas dire que ces recherches soient récentes, parce que les gens qui ont étudié les écosystèmes microbiens liés aux océans d'une part, liés au sol de l'autre, ça fait très très longtemps qu'ils travaillent dessus.
Et ce dialogue justement entre climatologues et microbiologistes, c'est quelque chose qui se fait...
Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a maintenant effectivement plus d'échanges entre ces communautés qui ont vu qu'ils avaient des objets d'études communs, qu'il y avait des méthodes qu'on peut mettre en commun pour les étudier, qu'il y avait des problématiques communes, en particulier sur l'évolution de ces micro-organismes, et que donc ça vaut plus la peine de discuter.
Fabien Joux, c'est une démarche complexe. Il existe plusieurs méthodes justement pour sonder tous ces mécanismes.
Alors oui, effectivement, il y a différentes approches possibles. Il y a une approche en fait, je dirais un petit peu réductionniste en fait, par l'utilisation de modèles microbiens au laboratoire, qu'on va exposer en fait à des modifications environnementales et puis regarder de manière très finement en fait leurs réponses. Une autre approche possible, c'est de simuler en fait sur des communautés microbiennes cette fois-ci au moyen en fait de structures expérimentales de plus grand volume, hein, de plusieurs centaines, milliers de litres, une perturbation simple ou croisée, et de regarder à plus long terme en fait l'évolution en fait de ces communautés. Alors ces deux approches en fait peuvent être assez critiquées dans la mesure où ces perturbations se font à des vitesses beaucoup plus rapides en fait que ce qui se passe en fait dans le milieu naturel. Une autre approche plus réaliste peut-être, c'est de regarder à long terme en fait des sites terrestres ou bien aquatiques, et de regarder au moyen d'outils moléculaires, génomiques, la composition, la fonctionnalité en fait de ces micro-organismes parallèlement aux facteurs environnementaux, et d'essayer d'en déduire en fait peut-être la saisonnalité en fait de ces micro-organismes, et puis également ceux qui peuvent réagir positivement, négativement à ces évolutions en fait du climat. Et puis une dernière approche peut-être, c'est une approche plus théorique en fait, par l'utilisation de modèles mathématiques qui vont prendre en compte en fait tous les processus microbiens, où là on peut simuler des conditions beaucoup plus compliqué à réaliser en fait expérimentalement ou à observer même dans le milieu naturel, et d'en déduire donc la réponse de ces communautés microbiennes à ces modifications.
Laurent Philippot, pour compléter justement sur ces méthodes d'études et d'analyse.
Alors justement, c'est ça qui est récent à mon sens, c'est toutes ces approches dans les écosystèmes terrestres pour simuler le changement climatique. Donc, les approches les plus simples, c'est les systèmes de toits qui sont placés au-dessus des écosystèmes terrestres, donc des champs, des prairies, pour réduire ou supprimer la pluie, pour simuler la sécheresse. Il y a des systèmes qui sont plus complexes aussi, qui consistent à relâcher du CO2 dans des buses qui sont placées en cercle autour de la zone d'étude, et qui relâchent du CO2 pour simuler une augmentation de la teneur en CO2 atmosphérique. Il y a également des enceintes ouvertes qui permettent aussi d'augmenter la température. Et ça, c'est beaucoup été fait en Arctique pour voir l'effet du réchauffement climatique. Et sur ces zones où on fait ces simulations, il y a différentes... on récupère effectivement l'ADN environnemental, des échantillons pour mesurer la diversité, l'abondance et l'activité des organismes dans des conditions futures.
Alors, parmi ces approches expérimentales, en France, on a des dispositifs qu'on appelle écotrons. On y mène des expériences qui complètent les observations dans la nature. Et justement, vous êtes allé voir une de ces expériences, Loïc Dutoit. Bonjour.
Bonjour, Natacha.
Reportage du jour, vous êtes rendu à Saint-Pierre-lès-Nemours, au centre de recherche écotrons d'Île-de-France.
Tout à fait. Et là-bas, j'ai rencontré des algues. Des micro-algues, pour être précis. Sarah Fiorini, qui est ingénieure de recherche de l'ENS au sein de cet écotron, m'a présenté une expérience qui permet de tester les effets combinés du réchauffement climatique sur ces micro-organismes aquatiques. Parmi ces effets, on pense tous à la hausse des températures, mais il y a d'autres effets très importants, comme le brunissement des eaux. Avec les pluies torrentielles qui accompagnent le changement climatique, les milieux aquatiques vont devenir plus boueux par endroits. Il y aura donc plus de matière organique à manger pour certaines algues, mais aussi moins de lumière dans ces eaux troubles pour faire de la photosynthèse. Alors, les expériences décrites dans le reportage ont été menées une première fois avec la lumière allumée et une seconde, la lumière éteinte.
Alors, il y a un tuyau qui sert pour prélever mes échantillons, mon échantillon d'algues quand je dois après l'analyser. Je peux vous les montrer. Voilà, je les connecte à ces robinets, j'ouvre mon robinet, j'aspire, et ben voilà. Là, j'ai mon échantillon qui sort. Ça, c'est ma culture d'algues qui est à l'intérieur du bécher. Je referme, je sors, et après, cet échantillon, je peux l'utiliser pour compter le nombre de cellules à l'intérieur, pour voir la concentration des matières organiques, ou pour voir l'azote, ou pour d'autres paramètres qui m'intéressent.
Est-ce que vous pourriez nous dire où est-ce qu'on est exactement ?
Cette pièce, ça fait partie c'est une des parties de la plateforme des microcosmes aquatiques. En fait, c'est la plateforme des chémostats. Donc, les chémostats, ce sont des bioréacteurs dans lesquels on peut cultiver des microalgues ou d'autres micro-organismes tels que les bactéries ou les virus, et sur lesquels on peut faire du coup des expériences.
Donc là, face à nous, sur des petites étagères blanches, on a trois chémostats. Dans les chémostats, on ne voit pas directement les algues, j'imagine, parce qu'elles sont toutes petites, minuscules, mais on sait qu'elles sont là par cette couleur verdâtre.
C'est exactement ça. Vous voyez que le liquide à l'intérieur, il n'est pas transparent, mais il a une couleur vert assez brillante. Et bien ça, c'est mes algues à l'intérieur. Avec cette couleur, on a déjà une très bonne densité. En sachant que les algues sont unicellulaires, donc c'est des cellules comme les cellules du sang. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas les voir à l'œil, mais pour ça, on a besoin d'un microscope ou sinon d'instruments précis pour les comptages cellulaires.
Est-ce qu'elles ont un nom particulier, ces algues ?
Oui. Les algues qu'on a utilisées pour nos expériences, c'est une espèce qui s'appelle Ochromonas danica. C'est une algue chrysophysée qui est reconnue parce que c'est une algue un peu particulière. Donc là, je commence un chapitre.
Allez-y, en synthétisant.
En synthétisant, je peux vous dire que les algues, notamment, on peut les comparer à des plantes. C'est-à-dire qu'elles font la photosynthèse et elles produisent leur matière. Enfin, elles se reproduisent et elles grandissent grâce au soleil, au CO2 et à l'eau. Après, il y a par contre des algues comme celle-là qu'on appelle mixotrophes. Elles sont capables pas seulement de photosynthétiser pour se nourrir, mais elles peuvent aussi, au cas où, devenir comme des organismes hétérotrophes, c'est-à-dire absorber soit la substance nécessaire, comme les sucres par exemple, ou la matière organique directement dans l'eau, ou même manger, phagocyter des petits organismes ou particules comme les bactéries. Donc elles sont ambivalentes. Et Ochromonas danica, c'est une espèce de ce type. Et donc, c'est utilisé comme modèle d'étude parce qu'elle a cette caractéristique-là, en fait.
Et qu'est-ce que vous avez voulu tester ici sur ces algues ?
On voulait tester les effets combinés du réchauffement climatique à la fois. On a séparé nos cultures en deux parties. Une partie, on l'a cultivée à 18 degrés et l'autre à plus 5, 18 plus 5 degrés. Et on voulait voir si c'est un écart de température de 5 degrés, que c'est un peu ce qui est prévu dans les futurs, avait un effet sur nos algues. Et la deuxième expérience, on a fait une partie de nos cultures avec l'ajout des matières organiques à l'intérieur.
Pour le synthétiser, dans l'expérience qu'on a sous les yeux, les variables que vous avez utilisées, c'est à la fois la lumière, l'ajout de matières organiques et la température, c'est ça ?
Oui, tout à fait, c'est ça.
Pour cette expérience, on n'a que des résultats préliminaires pour l'instant, on n'a pas encore l'entièreté des résultats.
Non, parce que l'expérience s'est terminée. Une partie des échantillons est partie dans deux laboratoires différents. Et en même temps, entre-temps, en attendant, c'est ce qu'on a fait, c'était analyser les paramètres biogéochimiques, qui sont les analyses qu'on a fait ici sur notre plateforme. On s'est rendu compte déjà que la température, elle n'a pas eu un effet marquant sur cette espèce. Ça, c'était les gros résultats de la première expérience. Ensuite, pour la deuxième expérience avec la matière organique, on a carrément vu que quand on passe au noir, la quantité de matière organique à l'intérieur de nos chémostats chute. Donc la photosynthèse, elle ne se fait plus parce qu'il n'y a plus de lumière. Et donc, qu'est-ce qu'elles font ces algues? Eh bien, elles commencent à se nourrir avec la matière organique qu'on avait mise dans nos cultures. Elles passent à la mixotrophie. Même pendant la phase de l'expérience avec la lumière, la matière organique favorise cette espèce parce qu'elle peut, oui, photosynthétiser comme une algue, mais en même temps, elle s'appuie aussi déjà sur la disponibilité des matières organiques et donc elle s'est nourrie aussi des deux façons.
Quand vous me parlez des résultats préliminaires, moi, je me dis, avec le réchauffement climatique, est-ce qu'on pourrait voir cette algue ou des algues qui lui ressemblent pulluler ?
On aura probablement, c'est ce qu'on s'attend, mais c'est à démontrer, c'est qu'on aura une évolution vers des organismes plus hétérotrophes plutôt qu'autotrophes au niveau microbien, c'est-à-dire plus vers des organismes qui sont capables de phagocyter ou d'absorber la matière organique plutôt qu'à des organismes qui font que strictement la photosynthèse. Au moins, notamment dans les zones où il y aura vraiment ces phénomènes de ruissellement et de brunissement des eaux. Après, pourquoi les microalgues elles sont si importantes et si étudiées? Parce qu'elles ont un rôle énorme dans les cycles du carbone global. Donc, elles produisent les 40% du carbone organique de la planète. Donc, bien sûr, en fonction des variations qu'ils peuvent y avoir sur ces organismes, on a des variations après sur la production et la consommation de carbone, et donc par effet rétroactif sur la variation du climat, sur la concentration de CO2 dans l'atmosphère, etc.
S'il y a des changements dans ces populations d'algues, comme on peut le penser, à cause des effets du réchauffement climatique, ça peut avoir des conséquences en retour sur le climat à nouveau.
Oui, oui, exactement. Exactement.
Merci Loïc Dutoit pour ce reportage. Fabien, je vous une réaction à ce qu'on vient d'entendre.
Oui, alors c'est très intéressant. Je connais bien le sujet parce que ça s'inscrit en fait dans un projet de recherche qu'on a mené ensemble, en fait, financé par l'Agence nationale de la recherche. Et donc ce caractère en fait de mixotrophie, on le retrouve effectivement dans certaines espèces de microalgues. Et beaucoup, en fait, dans des microalgues toxiques. Donc, ça pourrait constituer pour elles, en fait, un avantage, je dirais, adaptatif à pulluler, en fait, dans certains environnements qui seraient affectés, en fait, par ces ruissellements et aggraver, en fait, ces aspects, en fait, sanitaires, en fait, qui peuvent survenir, en fait, dans certains écosystèmes aquatiques.
Sur le volet sanitaire, justement, on parle en effet là des conséquences environnementales. Alice Le Breton, le changement climatique pourrait avoir une incidence sur les maladies qui sont dues aux micro-organismes.
Oui, tout à fait. Le changement climatique peut avoir des influences sur les maladies à différentes échelles. Il peut avoir des influences d'abord sur l'évolution de certains micro-organismes qui causent les maladies et d'autre part, il peut avoir une influence sur la capacité à transmettre ces maladies en changeant soit la biologie des vecteurs qui vont transmettre ces maladies, quand pour ces maladies qui sont vectorielles, celles qui sont transmises par les moustiques par exemple, ou bien en changeant les habitudes des humains ou les endroits où ils vivent. Mais si on prend par exemple les effets sur l'évolution, un très bon exemple qui est apparu ces dernières années, c'est l'exemple d'un champignon qui s'appelle Candida auris et qui était totalement inconnu des humains jusqu'en 2009. Et en 2009, il s'est mis à causer des infections dans les hôpitaux. Et une chose qui a été très très surprenante pour la communauté, c'est qu'en quelques années, il y a eu 4 émergences distinctes de pathologies à Candida auris. Et ensuite, il s'est répandu, il y a eu des milliers de cas dans les hôpitaux partout sur la planète, d'un pathogène qu'on n'avait jamais vu avant. Alors non seulement on l'avait jamais vu avant, mais il n'avait jamais non plus été vu dans l'environnement. Depuis, on l'a trouvé aussi dans l'environnement. Et les chercheurs ont essayé de déterminer un scénario d'émergence, de comprendre comment ce champignon, qui était environnemental, est devenu un pathogène pour l'homme. Et un des scénarios qui est assez tentant, c'est que ce champignon était plutôt capable de vivre à des températures normalement relativement basses. C'est un champignon qui vit dans des marais tempérés. On l'a trouvé dans des eaux un peu saumâtres de marais de l'hémisphère nord. Et qu'il aurait été soumis plusieurs fois à des événements extrêmes climatique, avec un assèchement des marais d'une part, qui faisait une hausse de salinité, et d'autre part des températures extrêmes, et que ce champignon aurait développé une capacité à vivre à des températures plus hautes. Et ce faisant, il aurait acquis la capacité à infecter des organismes homéothermes comme nous, c'est-à-dire qui sommes à 37 degrés, alors que normalement nos températures corporelles l'éliminent complètement.
C'est ça, c'est que les températures élevées favorisent l'émergence de souches adaptées aux humains. Laurent Philippot, vous souhaitiez réagir ?
Oui, j'ai deux exemples qui sembleraient, qui pourraient être en apparence nés de l'imagination d'un scénariste de films catastrophes hollywoodiens, mais qui sont réels. C'était le réchauffement climatique à nouveau en Sibérie. En 2016, il y a eu un été très chaud, donc qui a entraîné une fonte du permafrost et une épidémie d'anthrax, de la bacillus anthracis, le nom de la bactérie, avec plusieurs milliers de rennes tuées, des personnes qui ont été hospitalisées et un enfant qui est mort aussi. Et ça, c'était attribué à un été très chaud, donc la fonte du permafrost, et c'était la libération d'une carcasse de rennes qui avait été tuée par l'anthrax, sont disons plutôt dans les années 40. Donc, décongélation, libération des spores de bacillus et épidémie. Ça, c'était 70 ans plus tôt, la bactérie. Un autre exemple, c'était la découverte d'un virus géant. Bon, géant, il fait quelques micromètres, donc un millième de millimètre. Et ce virus était ressuscité à partir d'une carotte de glace du permafrost de 30 000 ans. Donc la simple décongélation de la carotte de glace a permis de ressusciter ce virus. Ce virus, d'ailleurs pour l'anecdote, qui est un pitovirus. Pitovirus parce qu'il a une forme d'amphore. Et pitos, c'est l'amphore en grec. Mais l'amphore, c'est également... on parle couramment, communément, de la boîte de Pandore, mais en fait, c'était pas une boîte, c'était une amphore. Donc, le nom Pitos, il y a la double connotation de la forme, mais aussi l'analogie à la boîte de Pandore.
Fabien Joux, autre exemple aussi d'émergence de micro-organismes pathogènes dans ce contexte.
Oui, on observe également en milieu marin et notamment côtier, en fait, l'émergence en fait de pathologies liées en fait à des bactéries du genre Vibrio. Donc, ce sont des bactéries communes, en fait, dans les milieux aquatiques marins et d'estuaires. On compte environ une centaine d'espèces de Vibrio. Et parmi celles-ci, en fait, certaines sont pathogènes, strictes ou opportunistes pour l'homme, avec bien sûr le cas du choléra, hein, c'est 3 millions de cas par an, 100 millions de morts par an. Mais aussi pour certains animaux marins, comme les poissons, les coquillages, les crevettes, ou bien encore les coraux. Et donc on constate depuis plusieurs années une émergence des pathologies liées à ces Vibrio, et des études montrent qu'un lien peut être fait avec le réchauffement climatique. Ces bactéries ont effectivement une préférence pour les eaux chaudes et peuvent proliférer très rapidement si cet environnement est riche en matière organique, comme dans le cas d'une eutrophisation. Et donc ça pose un sérieux problème en santé humaine, mais également dans les productions aquacoles, avec parfois des mortalités massives, notamment dans des élevages d'huîtres. Et en plus, en fait, de ce réchauffement climatique, les événements extrêmes comme les ouragans ou les inondations, dont l'intensité et la fréquence augmentent avec le changement climatique, pourraient favoriser l'émergence en fait de ces pathologies à Vibrio. Effectivement, ces événements conduisent à une diminution de la salinité en zone côtière, et c'est un autre facteur favorable à la prolifération de ces Vibrio. Et donc on constate, notamment en Floride, qui est régulièrement touchée par ces ouragans, une augmentation des infections humaines par Vibrio vulnificus, c'est une espèce particulière de Vibrio.
Une bactérie mangeuse de chair.
Voilà, c'est présenté comme ça en fait dans la presse. Effectivement, elle induit en fait des nécroses importantes de la peau au niveau des zones infectées. Et donc en septembre 2022, après le passage en fait de l'ouragan Ian, on a signalé 38 nouveaux cas de ces infections par Vibrio vulnificus et 11 cas mortels liés en fait à cette infection.
On arrive vers la fin de cette discussion, mais avant d'arriver vraiment au bout de cette discussion, comment protéger le monde microbiologique des effets du changement climatique ? Est-ce que les microbes peuvent-ils être une solution au changement climatique ? Laurent Philippot, vous avez travaillé, participé à des projets pour limiter justement les rejets de protoxyde d'azote, ce fameux N2O, ce puissant gaz à effet de serre.
Tout à fait. Nous avons travaillé avec une équipe suédoise, le ministère de l'Agriculture suédoise, et qui montrait que nous avons montré que certaines micro-organismes, certaines bactéries, au lieu de produire et de réduire le N2O, n'étaient uniquement capables de le réduire, donc de l'éliminer. Donc c'était en fait un puits parfait pour ce gaz à effet de serre. On a ensuite montré que l'ajout de cette bactérie dans les sols pouvait réduire les émissions de N2O. Et récemment, une équipe norvégienne a poursuivi nos travaux pour incorporer cette bactérie N2O réductrice à du compost et du coup permettant de réduire les émissions de N2O liées à l'apport du compost lui-même qui agissait comme matière organique fertilisante.
Alice Le Breton, voilà, quelle autre solution peut-on envisager hein, contre toutes ces conséquences néfastes qu'on vient de discuter ensemble?
Il y a différentes solutions qui peuvent être envisagées. Il y en a une qui aide vraiment à essayer d'utiliser le métabolisme des microbes, peut-être pour essayer de les capter, nos gaz à effet de serre, d'essayer de développer des biotechnologies où on se servirait de microbes qui sont très très bonnes pour prendre du dioxyde de carbone dans l'atmosphère ou du méthane dans l'atmosphère pour l'emmagasiner, refaire de la matière organique éventuellement valorisable pour nous à la place d'utiliser du pétrole. Et puis, il y a d'autres stratégies qui sont peut-être d'essayer d'aider les écosystèmes avec des approches microbiennes de type probiotique. En particulier, on parlait des coraux tout à l'heure qui étaient déstabilisés parce qu'ils perdaient leur symbiote. Ben, les coraux, ils n'ont pas juste les organismes photosynthétiques avec lesquels ils vivent, mais aussi plein de bactéries qui participent à leur vitalité et le microbiote du corail est déstabilisé par le changement climatique. Et il y a pas mal d'approches qui émergent en ce moment pour essayer de restaurer le microbe du corail et de voir si on peut le rendre un peu plus résilient au changement climatique.
Sur les essais qui ont été faits avec des cocktails probiotiques pour coraux, on a vu plutôt des effets bénéfiques, mais on ne sait pas exactement quels sont les micro-organismes qui ont fonctionné justement.
Voilà, pour l'instant on est... dans l'observationnel, à voir qu'il y a un petit effet bénéfique et à ne pas encore comprendre pourquoi, quelle est l'espèce de microbe qui va permettre de mieux améliorer le fonctionnement du corail ou quel est le métabolite clé qui va le permettre d'améliorer les choses.
Et puis Fabien Joux, il y a une idée développée depuis quelques années, hein, c'est d'ajouter des nutriments dans des zones appauvries de l'océan pour provoquer justement une explosion de vie phytoplanctonique, hein, c'est de la bio-ingénierie, la fertilisation océanique, mais ça pourrait avoir des effets néfastes également.
Oui, il y a eu en fait l'idée effectivement de fertiliser les océans par du fer, on l'évoquait un petit peu avant, c'est une opération à mon avis très hasardeuse en fait, dont on ne connaît pas encore exactement les conséquences en fait écologiques.
Dans quelques secondes on retrouve la chronique d'Alexandre Morales, mais merci Alice Le Breton, merci Fabien Joux et merci à vous Laurent Philippot. Tout de suite un tout autre sujet, on part dans l'espace lointain à 6,5 milliards d'années-lumière, c'est la chronique avec science.
Comment observer les étoiles lointaines de façon individuelle? Eh bien, ce n'est pas facile du tout, puisqu'en temps normal, nous ne parvenons à observer individuellement que les étoiles situées dans notre environnement très proche, c'est-à-dire à l'échelle de notre galaxie. Les seules étoiles distantes que l'on peut observer de très loin sont les supernovas, qui au moment de leur explosion peuvent produire une grande quantité de lumière qui dépasse celle de toute une galaxie. Et si les astronomes sont parvenus à observer de manière individuelle 44 étoiles situées à 6,5 milliards d'années-lumière, on dit que les astronomes ont résolu ces étoiles, c'est-à-dire qu'ils ont pu déterminer que l'origine de la luminosité est ponctuelle et n'est pas diffuse comme si elle émanait d'une galaxie par exemple, c'est-à-dire un ensemble d'étoiles. Cette impressionnante observation a été permise par un effet bien connu des astronomes, la lentille gravitationnelle. Il s'agit d'un effet de loupe qui permet d'amplifier la luminosité qui nous parvient d'une source lumineuse. Pour l'expliquer simplement, les objets astronomiques très très massifs déforment l'espace-temps, ce qui a pour conséquence de dévier la lumière des astres qui se trouvent derrière eux et de les faire paraître plus lumineux, vraiment comme une loupe. Les images ont été captées dans l'infrarouge par le télescope spatial James Webb qui, depuis son lancement en 2021, ne cesse de nous émerveiller. Et les résultats ont été publiés dans la revue Nature Astronomy. Annie Robin est astrophysicienne, directrice de recherche émérite à l'Institut Utinam de Besançon.
On a découvert un magnifique arc qui s'appelle maintenant l'arc du dragon dans cet amas Abel 370. Donc cet amas, c'est un très gros amas de galaxies. Et dans cet amas, il y a de la matière noire. Et en fait, en regardant ces images de l'amas, on voyait un espèce d'arc de lumière. Et on s'est rendu compte qu'en fait, c'était des galaxies d'arrière-plan qui étaient amplifiées par la matière noire de l'amas Abel 370. Donc ça apparaît projeté sur le ciel dans l'amas, mais en fait c'est très loin derrière. C'est un arc géant qui est connu déjà depuis de nombreuses années, qui a été beaucoup observé. Et les galaxies qui sont amplifiées, qui sont derrière, en fait, elles sont étirées le long de cet arc. Et dans le cas particulier de cet article, ce qui se passe, c'est qu'il y a une double amplification. C'est-à-dire que dans cet arc, qui est déjà amplifié par l'amas Hubble 370, on a découvert ce qu'on appelle des micro-lentilles.
Cette micro-lentille, c'est une étoile qui, par hasard, se trouve parfaitement alignée et dont l'effet de loupe s'ajoute à celui d'Hubble 370. Vous pouvez en fait vous représenter une lunette astronomique ou un télescope. Ici, la lentille principale, c'est l'amas Hubble 370 et derrière lui, une seconde lentille est alignée pour amplifier le grossissement. Alors, ce n'est pas la première fois que l'on parvient à observer des étoiles aussi lointaines. Hein. Les astronomes sont déjà parvenus à se servir de cette amplification par des micro-lentilles, mais généralement on n'observe qu'une ou deux étoiles dans une galaxie. Ici, ce sont 44 étoiles qui ont été résolues dans la même galaxie, ce qui nous donne un échantillon important des étoiles qui la peuplent.
Quand on a juste la lumière d'une galaxie dans son ensemble, on a assez peu d'informations sur la formation d'étoiles. On en a un petit peu, mais pas de cette façon-là, pas aussi en détail. 44, bon, c'est pas encore un échantillon énorme, mais ça nous donne quand même des informations, par exemple, sur le taux de formation d'étoiles dans cette galaxie, ou la fonction de masse initiale. Ça décrit, en fait, la distribution des étoiles en masse à leur naissance. Et ça, c'est quelque chose qui nous permet de mieux comprendre la formation d'étoiles dans ces galaxies-là. C'est ça qui est intéressant. Ils ont essayé de caractériser ces étoiles en étudiant leur distribution dans un diagramme de la magnitude en fonction de la couleur. Et avec cette information-là, ils sont capables de dire que ce sont des étoiles géantes ou super géantes rouges. Et donc, ça donne une information sur leur masse et leur âge. Les super géantes, ce sont des étoiles qui sont très jeunes, donc ça trace la formation d'étoiles très récente.
On a donc observé des supergéantes rouges, des étoiles très massives, jeunes et pourtant en fin de vie, puisque plus elles sont grosses, plus les étoiles se consument rapidement. Et si l'on découvre à l'avenir d'autres alignements tels que celui-ci, on pourra étudier plus en détail la physique de ces étoiles lointaines et leur formation. Alors bien sûr, il faut que les astres daignent s'aligner pour nous offrir cette espèce de télescope stellaire, mais nous ne sommes pas condamnés à attendre un heureux hasard. Cette publication montre bien l'importance d'observer plusieurs fois la même région du ciel à des endroits dans son étoile et déjà soumis à un fort effet de lentille gravitationnelle pour espérer faire de belles découvertes.
Merci Alexandre pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la science CQFD. Ève Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Noémie Eliazor, Bruno Sansini, Loïc Dutoit, Ali Ruyer-Thompson. À la réalisation, Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui, Élise Leu. Vous pouvez nous écouter partout, à toute heure, en podcast sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.